Bonjour, aujourd'hui dans C'est eux qui en parlent le mieux, nous allons présenter Tella Botanica. Nous allons parler de plantes, nous allons parler d'herbiers, nous allons parler de sciences participatives. Mais après tout, ce n'est pas moi qui vais parler, puisque Tella Botanica, c'est eux qui en parlent le mieux. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons Daniel Mathieu, président de Tella Botanica, bonjour.
Bonjour.
Louise Boulangea, bonjour.
Bonjour.
Audrey Tocco, bonjour. Bonjour. Et Jennifer Carré, bonjour.
Bonjour.
Daniel Mathieu, vous êtes président de Tella Botanica, donc c'est à vous de commencer à présenter votre association. Qu'est-ce que Tella Botanica? Depuis quand ça existe? À quoi ça sert? Tout ça.
Alors, Tella Botanica, d'abord on va expliquer ce que ça veut dire Tella et Botanica. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de latin comme moi, Tella ça veut dire le réseau, la toile, les Anglais disent le web. Et puis Botanica, c'est pas la botanique, ce sont les botanistes. Ce sont vraiment donc le réseau des botanistes. Donc déjà ça pose un petit peu ce que c'est. Puis ce réseau des botanistes, c'est pas aussi n'importe lequel, puisque c'est celui des botanistes francophones. On a voulu créer quelque chose qui soit relié autour de la langue française, parce que c'est un vecteur qui est important de facilitation de la communication entre les acteurs. Quand on est multilingue, c'est pas pareil. Et ensuite, la langue française étant peu représentée sur Internet, le fait d'avoir une présence forte dans le domaine de la botanique et naturaliste permettait de faire un contrepoids, je dirais, par rapport notamment aux anglo-saxons qui sont beaucoup plus présents que nous sur le web pour tout ce qui concerne la nature. Alors ce réseau a été créé par une petite équipe en l'an 2000, hein, donc ça va faire sa 12e, bientôt sa 13e année. Nous sommes partis avec au départ un salarié, beaucoup de bénévolat, etc. Aujourd'hui, donc le réseau a monté en puissance et on se retrouve avec une équipe de 15 salariés hein, environ, donc qui travaillent à Montpellier. Et on verra donc un petit peu ce qu'ils font lorsque certains d'entre eux vont expliquer un petit peu leur travail tout à l'heure.
Toute l'équipe est basée sur Montpellier?
Toute l'équipe est basée sur Montpellier intégralement. Alors ce réseau, puisqu'on a parlé de réseau, donc ce sont des gens qui vont être un réseau internet, hein, par internet, un petit peu sur le principe des réseaux sociaux. Donc utilisation des technologies de l'information. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 18 000 personnes qui se sont inscrites dans ce réseau, donc ce qui représente un succès, je dirais, certain quand même, puisque les sociétés botaniques en France ne dépassent pas la plus grosse, ne dépassent pas 1000 personnes. Et elle est assez ancienne, hein, elle a plus d'un siècle. Nous, on a une douzaine d'années, on a à peu près 18 000 personnes. Alors bien sûr, le niveau d'implication est très différent hein, d'une personne à l'autre. Puisqu'on peut faire on peut intervenir uniquement en tant que curieux, sans être obligé d'être un participant militant. Alors, sur les objectifs, à quoi ça sert un réseau de botanique, il y a trois grandes missions. La première mission, c'est rassembler. Alors, rassembler donc qui? Les botanistes francophones. Donc, ça, c'est assez simple, avec les outils collaboratifs que l'on peut avoir sur le web aujourd'hui. C'est ensuite échanger, hein, pas tout de se rassembler encore, faut-il pouvoir partager des choses en commun, échanger des connaissances, valoriser les connaissances produites par les uns et utilisées par les autres. Et puis aussi organiser, parce qu'on se rend compte que dans la nature, tout ne s'organise pas spontanément. Il est important d'avoir notamment des personnes, en particulier celles qui sont autour de la table aujourd'hui, dont un des métiers, un des axes forts, c'est d'apprendre aux gens à s'organiser, à mener un projet en commun, à collecter des données, observer la nature de différentes façons, pour que l'ensemble prenne corps et soit réellement producteur d'une valeur ajoutée au service de la communauté botanique et non botanique, puisque tout le monde peut accéder à nos données. Voilà, en première approximation, ce qu'on pourrait dire de Tella Botanica.
Alors, c'est en gros le Facebook des botanistes.
C'est un peu le Facebook des botanistes, parce qu'on peut le présenter un petit peu de cette façon-là, avec des outils, des approches différentes. Notamment, un des principes de base aussi qu'on a retenu, c'est les mêmes qui sont dans Wikipédia, hein, en particulier pour la gestion de la connaissance, à savoir que tout le monde peut produire de la connaissance, tout le monde peut produire des observations sur le terrain, des photos, toutes sortes de textes, à condition que ces données soient fournies librement et gratuitement pour que tout le monde, toute la communauté puisse les utiliser, éventuellement les corriger, donner leur avis dessus. Donc c'est vraiment une économie du don, ce qu'on appelle, qui fonctionne comme ça. Et il est vrai que quand on a démarré l'association au départ, puisqu'on est une association de loi 1901, on nous a posé des questions en disant, vous allez fonctionner avec des données qui sont gratuites, qui sont distribuables à tout le monde, qui ne sont pas brevetées, etc., type la loi Hadopi et compagnie, mais vous n'y pensez pas, vous ne pourrez jamais faire une activité économique. L'expérience a montré que ceux qui veulent vendre des données ont beaucoup de difficultés. Par contre, ceux qui les diffusent gratuitement peuvent se permettre d'embaucher 15 salariés. Donc, je pense que c'est un excellent démenti.
C'est un beau succès, oui.
C'est un excellent démenti de ceux qui restent sur une vision très marchande de notre société.
Des informations gratuites, donc en fait, ça existe.
Les informations gratuites, ça existe. Bon, comme Wikipédia, on ne l'a pas inventé non plus, hein, mais sur Tela Botanica, toutes les données qui sont dessus, toutes les photos, toutes les informations dessus, vous pouvez librement les télécharger, les utiliser, et vous pouvez même les prendre, les rééditer, et vous pouvez même les vendre si vous le voulez, sans demander l'autorisation. C'est-à-dire que c'est l'autorisation la plus large que l'on peut accorder en termes de diffusion de données. Et on se rend compte que, eh bien, les gens ne rechignent pas à donner des données. Je me rappelle la première fois qu'on s'est dit, tiens, on n'a pas de photos sur le site internet, il faut qu'on demande des photos. Donc on a lancé un appel aux gens du réseau et on a eu, en l'espace d'une quinzaine de jours, le nombre de clichés qui nous ont été proposés pour être mis en libre, c'était de l'ordre de 350 000. Alors on a arrêté parce qu'on était incapable de gérer ça, on ne savait pas comment les organiser, où les mettre, etc. Et ça, il y a 7 à 8 ans de ça. Depuis, on s'est organisé, on en a un bon nombre en ligne aujourd'hui.
Alors justement, quel type de contributeurs et quel type de données vous recensez ? Parce que ce n'est pas une tour de Babel en vrac, j'allais dire. C'est vraiment l'idée, c'est de profiter de l'émulation de tous ces participants pour créer de la connaissance.
Alors, vous avez tout à fait raison. Hein. Tout n'est pas, c'est pas un système dans lequel on collecte n'importe quoi, n'importe comment. Les choses sont très organisées, très structurées, puisque les données, eh bien, il faut des ordinateurs pour les mettre, il faut les stocker dans les ordinateurs. Ça se fait pas de façon complètement naturelle. Hein. Il y a une bonne équipe d'informaticiens qui travaillent à Tela Botanica. Les données qu'on collecte, je vais vous donner quelques exemples, hein, en fait exhaustif. On va collecter. Au début, on a collecté des références bibliographiques de botanique francophone, parce que ça n'existait pas sur le web. On en a collecté 30 000. On a collecté, aujourd'hui on collecte beaucoup d'images de plantes qui sont vérifiées par les pairs, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que les gens, il y a des outils, les gens qui sont ici travaillent sur ces outils-là, qui permettent aux gens, quand ils mettent une photo, ben, d'avoir les collègues, les copains, etc., qui vont aller les corriger, dire si c'est la bonne espèce de plante ou pas. On collecte aussi des données de recensement de données sur le terrain, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et puis observer une plante, et bien on peut dire voilà, j'ai vu telle plante à tel endroit, à telle heure, dans telle condition, ce qu'on appelle un carnet en ligne. Hein. Autrefois, les botanistes.
C'est un herbier en ligne, en fait.
C'est pas un herbier. Un herbier, ce qu'on entend par herbier, autrefois un herbier, c'était un livre qui dessinait, qui offrait à voir des plantes sous forme de peinture, d'aquarelle ou autre. Aujourd'hui, un herbier est réservé à une collection de plantes séchées qui sont rangées, stockées pour pouvoir servir de preuve pour déterminer les noms des plantes en particulier. Tandis qu'ici, c'est plus déterminé de se dire j'ai vu telle plante à tel endroit pour dire avoir une carte de France, par exemple, dans laquelle on a les plantes qui sont réparties. Tela Botanica a fourni la première carte de répartition des plantes en France par département. Elles n'existaient pas avant. Elles sont reprises un peu partout aujourd'hui. C'est un exemple donné. Et en particulier, toutes les données qui sont fournies par les membres du réseau sont collectées dans ce qu'on appelle une flore électronique. On appelle ça e-flore, pour électronique, c'est à la mode. Et dans cette e-flore, on collecte pour une plante donnée, ses images, son nom commun dans 7 langues différentes, les endroits où on va pouvoir la trouver en France, ses besoins écologiques, des données ethnographiques ou ethnologiques, etc. Donc c'est vraiment un recueil, un petit peu comme à la Wikipédia, mais très organisé autour des plantes elles-mêmes. Tout ça donc utilisable librement.
Une question peut-être un peu naïve, mais à quoi ça sert ?
Alors, à quoi ça sert ? Alors ça, le à quoi ça sert va dépendre beaucoup de qui vous êtes. Hein. Ça va servir, quand on regarde aujourd'hui la population des gens qui sont à Tella Botanica, on sait que sur le réseau, tous les meilleurs botanistes de France sont inscrits à peu près au réseau Tella Botanica et ils le connaissent. Donc on s'adresse, et de façon initiale c'était ça, à des professionnels, puisqu'on était capable de, on avait les premiers à mettre en ligne une liste de toutes les plantes qui existent en France, et cette liste est actualisée de façon permanente, et aujourd'hui, donc ça c'est Louise qui s'occupe actuellement de ce programme-là, c'est de collecter, de faire l'inventaire de la biodiversité végétale de la France, mais de tous ces territoires d'outre-mer, hein, de la Nouvelle-Calédonie, en passant par la Réunion, les terres australes, le Saint-Pierre-Miquelon, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, j'en passe, etc. Et même la Corse. Collecter toutes ces plantes-là, mais c'est également c'est les mousses, c'est les lichens, ce sont les champignons, ce sont les algues marines, les algues d'eau douce. Enfin, la liste est très très longue. Donc ça, c'est les professionnels. Puis ensuite, on a un autre public, qui est un public, grand public, qui lui va être intéressé beaucoup plus par ce qu'on appelle des programmes de sciences participatives, où on va demander cette fois d'observer peu de choses avec un protocole qui est simple, compréhensible de tous, pour observer par exemple, et ça Jennifer pourra vous en parler, observer le changement climatique, hein, ça c'est très important aujourd'hui, recenser la biodiversité dans la nature et étudier son évolution avec les changements climatiques, mais aussi les actions de l'homme, hein, l'urbanisation, la déprise agricole, l'agriculture intensive, tout ça, ça a des impacts, il faut pouvoir le mesurer. Et ça peut s'adresser à des publics beaucoup plus larges, hein, qui vont participer à ça et qui vont voir les résultats, qui vont pouvoir les collecter, les regarder, les observer, y compris des belles photos.
Je vous remercie.
Ouais, si je peux ajouter quelque chose. En fait, une fois que nos données sont constituées, les gens peuvent tout simplement faire des recherches. Sur iFlore, par exemple, même s'ils ne sont pas contributeurs, en fait, ils vont pouvoir, s'ils se posent des questions sur une plante, aller chercher l'information là où elle est, c'est-à-dire sur iFlore, sur Tella Botanica.
Cette flore, elle fonctionne comment? Est-ce qu'elle permet d'identifier une fleur que j'ai sous les yeux et dont je ne connais pas le nom, ou est-ce que c'est dans l'autre sens?
Ouais, non.
Non. L'identification des plantes aujourd'hui se fait par des ouvrages, des bouquins,
hein,
des
livres,
soit par des photos, la flore Bonnier, alors ce soit des clés dichotomiques pour ceux des spécialistes, c'est très compliqué, soit ce sont des approches par image, mais dans ce cas-là, on ne les met pas toutes parce qu'on croulerait dessous. Et l'identification des plantes par informatique, il y a des gens qui travaillent dessus depuis 20 ans, les premiers qui ont travaillé, ce sont les Australiens, il y a une vingtaine d'années, avec le programme Delta. Aujourd'hui, nous, on est impliqués dans cette démarche-là, qui est relativement complexe, pas facile pour faire quelque chose qui soit facilement utilisable, et aujourd'hui surtout sur des outils type smartphone par exemple, que tout le monde rêverait d'avoir. Tiens, je vois une plante, je sors mon smartphone, je regarde et je trouve ce que c'est. Bon, ça paraît simple a priori, en fait c'est très complexe à mettre en œuvre pour faire quelque chose qui soit. Donc on y travaille, mais iFlore, vous avez la plante, vous cherchez son nom, vous avez toute l'information, mais vous ne pourrez pas déterminer celle que vous avez dans votre sac à main.
D'accord. Donc l'outil iPhone où il suffit de prendre en photo une fleur et d'avoir son nom immédiatement, ça n'existe pas encore.
On y travaille, mais ça n'existe pas.
Bon. Pas pour le moment.
Ça a quand même un intérêt pour la détermination des plantes, tout simplement parce que ça nous permet de vérifier une détermination. On a tellement de données sur une plante que ben, voilà, on a la plante en face de nous, on peut simplement vérifier si c'est les caractéristiques qu'il y a sur la fiche et fleur correspondent à ce qu'on a en face de nous. Donc vérifier notre détermination. Voilà.
Si on n'a que le nom français aussi, on peut faire la recherche à partir du nom français et on peut avoir le nom latin.
D'accord.
Ça, c'est pas mal aussi.
Louise, donc vous, votre boulot, c'est de compter le nombre de plantes qu'il existe en France.
On peut dire ça un peu comme ça, oui.
Alors, combien il y en a?
Oula, en France métropolitaine, si on compte uniquement les plantes à fleurs, on a déjà 100 000 noms de plantes pour à peu près 5 000 plantes. 6 000 espèces différentes, mais 100 000 noms. C'est ça la complexité de la botanique, c'est qu'il y a des plantes qui portent beaucoup de noms. Donc on essaye de faire le tri de tout ça avec des professionnels, des botanistes très pointus, qui sont très pointilleux dans leur domaine, mais qui sont souvent bénévoles, pour la plupart bénévoles. Et donc là, on travaille à la fois sur la métropole et à la fois sur les dom-toms, et puis aussi par groupe de plantes. Donc on travaille sur les mousses, sur les lichens, les champignons, les plantes à fleurs, les algues, etc. Donc c'est très très large. Et pour ça, c'est vrai que le réseau Tella Botanica, c'est une solution parce que ça permet de rassembler les gens par des forums, par des espaces de discussion, d'échange de documents, des outils en ligne, etc., qui permettent de rassembler les données et d'essayer de synthétiser pour arriver à un consensus.
La marque aurait rêvé d'avoir un outil pareil.
Exactement. Donc depuis la marque, il y a eu énormément de changements. Et là, il y a un gros travail parce qu'avec la génétique, il y a énormément de modifications au niveau des noms de plantes et de leurs relations. Du coup, on a beaucoup de travail en ce moment. Et c'est vrai que quand la génétique aura fait son travail, on va tomber dans une phase à peu près stable. On espère à moins qu'il y ait une autre technologie qui nous dépasse, qui remette en cause les taxons.
Pour être grand public, un taxon, la taxonomie, qu'est-ce que c'est exactement ?
La taxonomie, c'est une des disciplines de la botanique. On a la botanique de terrain qui permet de se balader sur le terrain, de déterminer, de donner un nom aux plantes qu'on croise. La taxonomie, c'est la classification. C'est donner un nom parmi un groupe de noms et regrouper les noms de plantes. Essayer de regrouper les noms de plantes pour n'en faire qu'une.
D'accord. C'est ranger les plantes dans un tiroir.
Taxos en grec, ça veut dire ranger. Donc, c'est tout à fait ça. On range les plantes par leur nom.
Et pour les ranger, vous utilisez aujourd'hui l'outil génétique et non plus uniquement l'outil morphologique.
Oui, mais c'est vrai que ça dépend énormément des groupes, puisque la génétique a ses limites aussi. La génétique, pour certains groupes, ça va être très, très intéressant parce qu'on va arriver à mettre des cases précises pour les groupes de plantes. Pour d'autres groupes, il faut vraiment encore s'attacher à la morphologie et à l'écologie des plantes pour pouvoir faire ces tiroirs. Donc tout est important en fait. Et c'est maintenant qu'on rassemble toutes ces données de tous les coins.
Pour faire tout ça, vous vous basez sur, j'imagine, les grands herbiers qui ont été réalisés depuis la marque.
Voilà, il y a vraiment un lien avec les herbiers. Donc moi j'ai l'avantage de travailler sur les deux projets, herbiers et référentiel taxonomique. Et donc les herbiers, c'est là qu'on va piocher nos informations d'origine. Donc depuis la marque, c'est
fin 17e.
Fin 17e. Et donc on va depuis ce temps-là, on a collecté des planches d'herbiers sur le terrain dans tous les pays du monde. Et ça nous permet d'avoir la référence au moment de la description de l'espèce, donc au moment de la marque, de l'inné. Et puis même jusqu'à récemment, tous les herbiers sont autant historiques que contemporains. Et donc ça fait une banque de données énorme. Quoi. Ça, à Montpellier, on a 4 millions de spécimens. Et rien que dans l'herbier de l'université de Montpellier. Mais après, si on prend tous les herbiers de Languedoc-Roussillon, on arrive à des nombres énormes.
Et si, comme beaucoup de monde, moi, j'ai fait, quand j'étais petit, un petit herbier chez moi, est-ce que ça vous intéresse ?
Tout dépend de la grandeur de l'herbier, de ses, justement des données qui sont inscrites, donc la date de récolte, la détermination. Mais c'est surtout la date et le lieu qui vont être importants, puisque la détermination, on va toujours pouvoir la refaire plus tard. Donc, pourquoi pas un herbier pédagogique, ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, un herbier d'une école qui s'est attaché à un endroit particulier, en ville, à un moment particulier. On a des herbiers comme ça dans l'herbier de l'université de Montpellier. Mais c'est vrai que les grands herbiers de botanistes sont les plus importants au niveau taxonomique, parce que c'est eux qui ont la référence des noms. C'est eux sur lesquels se sont basées la description des espèces.
D'accord, c'est le premier arrivé qui a vraiment donné son nom à la plante en question.
Pas forcément le premier arrivé, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs, et c'est ça qui complexifie la chose. On s'aperçoit que les botanistes qui voyageaient beaucoup au XVIIIe siècle, ils ont récolté énormément, et entre le moment de la récolte et le moment de la description, il y a énormément d'erreurs. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, ils se sont attachés à redécrire les noms et refaire le tri. Donc en fait, on va avoir même à l'heure actuelle des noms qui ont été publiés 10 fois différemment, mais qui le nom retenu actuellement, ça va être un nom récemment publié.
On a tous en tête la légende de l'inventeur d'une espèce. Est-ce que c'est vraiment ce que cherchent les botanistes aujourd'hui, vouloir trouver une nouvelle espèce et donner le nom à la nouvelle espèce ?
Ça va dépendre des endroits, groupes de noms déjà, des groupes de plantes, pardon. Par exemple, au niveau des algues, au niveau des lichens, on aura facilement... Enfin, il y a beaucoup d'espèces encore à déterminer, à décrire surtout. Mais au niveau des plantes à fleurs, en métropole, on va avoir beaucoup plus de mal quand même à trouver de nouvelles espèces, bien qu'on en trouve encore. Hein. Donc un botaniste métropolitain qui travaille sur les plantes à fleurs, son travail, ça va être plus de faire le tri de ce qu'il y a déjà, alors qu'un botaniste de Guyane, ça va être de découvrir de nouvelles espèces.
Et les nouvelles variétés ? On entend souvent parler de nouvelles variétés de roses, de nouvelles variétés de tomates. Est-ce que ça rentre aussi dans votre détermination, dans votre taxonomie ?
Là, c'est beaucoup plus compliqué puisque les variétés, c'est un concept beaucoup plus flou. Le concept d'espèce est clair puisque ça se base sur la fécondité. Donc à partir du moment où une espèce est féconde, l'espèce est arrêtée. Quand elle est plus, quand deux plantes sont plus fécondes, c'est deux espèces différentes. Pour les variétés, c'est beaucoup plus flou. On s'adapte, c'est soit une variété parce que c'est à des endroits géographiques différents ou parce que ça a une forme différente. Mais pour la taxonomie, c'est beaucoup moins clair. Donc par exemple, au niveau des roses ou au niveau de tout ce qui est pissenlit, etc., on a appris il y a peu de temps qu'en fait, il s'agit de clones. Et donc, il y a facilement beaucoup de ce qu'on appelle des variétés. Mais là, c'est difficile de faire le tri et de savoir où s'arrête la notion de variété.
Par contre, dans votre question, il y a peut-être une façon de dire, est-ce que vous occupez également des variétés horticoles ou des variétés agricoles ? La réponse est non, c'est-à-dire que la botanica s'arrête aux plantes sauvages et il y a d'autres disciplines qui vont faire de l'horticulture, la Société nationale d'horticulture de France, par exemple, qui est une grosse association, traite de ça. Et si ce sont dans le domaine agricole, dans ce cas-là, il y a d'autres structures, mais plutôt privées et recherches, qui vont travailler sur la recherche de nouvelles variétés au niveau agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, elles ont toutes une source sauvage. Quand vous prenez, par exemple, des plantes, vous prenez là, je donne un exemple parce qu'il est, très éclairant. La plante qu'on appelle les blettes ou les bêtes qu'on va manger, la betterave que l'on va manger qui est utilisée pour faire du sucre, la betterave rouge qui est utilisée, vous connaissez, etc., sont toutes issues d'une même plante qui est Betta maritima, qui est la bête maritime qu'on va trouver au bord de mer, mais qui ne ressemble absolument pas ni aux unes ni aux autres. Donc, nous, on connaît Betta maritima, la sauvage. Par contre, les autres, on sait qu'elles sont dérivées de celle-là, mais ce n'est pas le problème de Tella Botanica de s'occuper de leur devenir ou de leur bonne santé.
D'accord. De toute façon, j'imagine que les laboratoires de recherche qui mettent en place de nouvelles variétés de maïs en particulier, n'ont pas dans l'idée de mettre leurs données en libre accès sur Internet.
Il y a peu de chance.
Oui, c'est ça.
L'art est long. porter un poids si lourd. I wake up this afternoon and I dream on the earth. I wake up this afternoon and I dream on the earth. Mon cœur est léger comme un oiseau qui s'abreuve au bord d'un ruisseau. J'ai rendez-vous au bord de l'eau pour consulter tous mes mots. J'ai le cœur qui balance à la vue de cette romance, héritage fatal d'une timide et automnale. I wake up this afternoon and I dream on the earth. I wake up this afternoon and I dream. Afternoon and I dream on the earth. I wake up this afternoon and I dream on the earth.
Audrey, vous êtes service civique dans l'association Tella Botanica.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre service?
J'ai initié en février cette année. Là, je m'apprête à terminer mon service civique. Donc, ça a duré 9 mois. Donc en tant que service civique, j'ai eu quelques missions qui ont été définies dès le début, à savoir que le service civique il a aussi le libre choix sur ces missions qu'on lui présente. Moi j'ai choisi de les suivre parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà à la base. Donc en fait ma mission a été d'animer en fait le réseau Tella Botanica, mais plus particulièrement un réseau de membres relais. Donc c'est-à-dire que le réseau est composé de membres de tous les niveaux en botanique. Et au sein de ces membres-là, on va retrouver des personnes qui veulent soit relayer Tella Botanica localement, donc sur leur territoire, soit tout simplement s'investir peut-être, pas relayer forcément Tella Botanica, mais en tout cas faire des projets vraiment très locaux. C'est un projet qui a pris essor déjà l'année dernière avec une autre personne en service civique, donc Émilie Bonnet. Donc elle s'est occupée en fait de voir les besoins en fait d'un membre relais, de quels outils il a besoin, et moi en fait c'est ce que j'ai repris ça en ayant la notion des besoins des membres relais. Et en essayant de gérer un réseau de membres relais, quand même.
Un membre relais, ça peut être un botaniste chevronné comme un simple citoyen.
Complètement. Et une personne qui peut aussi ne pas avoir de compétences en botanique, qui s'y intéresse de loin, mais qui a des compétences, par exemple, d'animation. Un membre relais peut aussi organiser des rencontres avec d'autres botanistes. Ça peut être un animateur, par exemple. Un animateur de rencontres.
Et vous êtes là pour
pour les aider, pour les suivre, pour leur montrer que il y a des outils, il y a des personnes qui sont là pour les aider dans leurs projets. Donc mon rôle, ça a été surtout de créer des outils, de leur communiquer, d'aussi de créer avec eux leurs projets.
Donc Tella Botanica, en fait, est aussi à la fois un outil, j'allais dire, scientifique, mais aussi une ressource pour des animations grand public, une ressource d'outils.
Mmh. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un événement dans l'Oiselet. Donc, c'était la femme pédagogique de l'Oiselet qui nous a contactés. Elle voulait créer un événement qui était sur la biodiversité et particulièrement sur les plantes aromatiques. Et donc, j'ai fait appel au réseau. Tout simplement au réseau de membres relais. Et deux personnes m'ont répondu, en fait, pour tenir le stand Tella Botanica et présenter une animation, en fait, pour enfants et pour grand public. Donc voilà, ces deux personnes-là, je les considère comme mon relais maintenant, parce qu'elles ont communiqué, elles ont diffusé des connaissances que Tella Botanica présente sur son site, et a aussi, partagé des connaissances en botanique avec un public plus proche, donc c'est-à-dire lors d'un événement, grand public.
L'objectif étant de diffuser au maximum auprès du très grand public toutes ces sommes de connaissances qui ont été validées par des botanistes chevronnés.
Aussi, exactement. Après, c'est diffuser des connaissances en botanique, mais c'est aussi diffuser des connaissances sur des outils collaboratifs qui sont informatiques, simplement. On parlait avant du carnet en ligne, c'est un carnet de terrain, en fait, électronique. C'est un outil collaboratif et les membres relèves peuvent aussi très bien communiquer sur ce genre d'outils. Et il n'y a pas besoin forcément d'être bon en botanique pour savoir utiliser un outil informatique. Donc, c'est aussi de la diffusion de connaissances sur des outils informatiques, sur de la botanique et aussi sur la collaboration en général.
Sur un autre point de vue, vous avez passé 9 mois à Tella Botanica, c'est sympa l'équipe.
Attention à ce que tu vas dire.
Oui, c'est une équipe très active. On se sent vraiment bien dans cette équipe, simplement parce qu'on a l'impression de tous être au même niveau. On a tous des implications différentes, des activités différentes en tant que personne de l'association Tella Botanica. On est tous sur le même piédestal et du coup, c'est vraiment très... Il y a un travail qui est fait de façon collaborative aussi, au sein de l'équipe, pas seulement au sein du réseau, quoi.
D'accord. J'ai l'impression que le mot collaboratif revient très souvent.
Ouais.
C'est vraiment l'état d'esprit du projet.
Complètement. Hein. Je pense que c'est une notion très importante de Tella Botanica.
Dans l'équipe, vous avez dit il y a 18 personnes.
15
personnes, pardon.
15 salariés.
15 salariés.
Et là, ça fait 2 ans que je suis la deuxième génération de service civique au sein de Tella Botanica. Il y en avait 2 l'année dernière et 2 cette année. Et il y a aussi des stagiaires qui participent au travail de l'équipe.
D'accord. Ça fait plus de 15 au total. Oui.
Plus de 15, voilà.
Quels sont les profils des membres de l'équipe ? Est-ce qu'il y a des scientifiques, des communicants ?
Alors là, au niveau des profils, en gros, l'équipe est structurée autour d'une équipe d'informaticiens, 3-4 informaticiens, spécialistes du web communicatif, collaboratif, etc.
Donc ça, c'est pour la création de l'outil.
Voilà, création des outils, on fait plein de choses. Une équipe d'animation, donc des personnes dont 2 sont ici, Jennifer et puis Audrey, qui vont faire vraiment de l'animation. Donc une culture à la base scientifique, puisqu'on est dans le domaine scientifique, mais qui ont acquis des compétences, et je pense que des compétences en termes d'animation, comme Audrey ou Jennifer pourra l'expliquer tout à l'heure. Et puis une autre équipe, elle, qui est un peu différente, qui travaille spécifiquement sur les herbiers, comme Louise, qui sont des gens qui sont très pointus sur le domaine justement des herbiers, la taxinomie, les noms des plantes, etc. Donc vraiment des spécialistes qui apportent leur contribution par rapport aux collections, par exemple. Donc c'est 3 profils tout à fait différents, plus bien sûr une directrice qui vient d'être embauchée depuis maintenant 1 mois, pas plus, et puis un agent administratif. Voilà en gros le profil de l'équipe.
D'accord, alors justement, Jennifer, vous êtes chef de projet sciences participatives.
C'est magnifique, quoi.
Qu'est-ce que les sciences participatives ?
Ah, les sciences participatives, en fait, c'est quand des scientifiques ont envie de s'ouvrir un petit peu au monde des citoyens.
Et
il y en a, oui. Et puis qu'aussi, ils se disent, pourquoi pas pourquoi pas essayer de collecter des données de cette manière-là. Du coup, ils peuvent faire appel à des associations comme nous, qui sont spécialisées, du coup, dans la collecte de données, puis aussi dans l'animation, pour pouvoir mettre en place un réseau de collecte de données. Donc, pour donner un exemple, moi, je m'occupe en particulier de l'Observatoire des saisons, donc, qui a été mis en place en 2007, en collaboration avec Isabelle Chouin, qui travaille au CEF CNRS là, de Montpellier, le CREA et puis Planète Science aussi. Donc cet observatoire, en fait, essaie de collecter des données sur la phénologie de la flore et de la faune, donc nous, plus particulièrement la flore, Donc, qu'est-ce que la phénologie ? C'est le rythme. C'est le rythme de vie finalement des plantes. À quel moment elles fleurissent, à quel moment les feuilles tombent, à quel moment on va voir apparaître les bourgeons ou même les papillons, etc. L'émergence des insectes, c'est ça la phénologie, c'est le rythme de vie, si vous voulez, des organismes.
D'accord.
Donc nous, mon rôle en fait en tant qu'animatrice, c'est d'essayer de créer des outils adaptés pour que les gens puissent identifier correctement déjà les espèces, les accompagner dans cette démarche. Également animer le réseau, c'est-à-dire les faire discuter entre eux, répondre à leurs questions s'ils en ont, faire en sorte que les gens aient des échanges. Et puis aussi faire en sorte que l'outil de saisie de données soit facile à prendre en main, ergonomique, etc. Et ça, on travaille donc du coup en collaboration avec les informaticiens. Donc moi, j'écoute les demandes de mon réseau. Donc les gens qui ont envie de participer, qui ont envie de collecter des données, me disent c'est facile, c'est difficile, on travaille sur ces points-là, et puis on adapte les outils en fonction des besoins.
Donc voilà. Dans l'idée, c'est de faire travailler des scientifiques sur des données qui ont été récoltées par des non-scientifiques.
Exactement.
Alors, la première question qui se pose, j'imagine, c'est quelle est la fiabilité des informations ?
Alors la fiabilité, elle est très bonne en fait. Ça a déjà été, enfin, il y a des études qui ont été faites là-dessus.
Oui, j'imagine.
Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre en fait, donc c'est une collecte de masse, donc c'est important. Là, par exemple, sur l'ODS, on a 2000 personnes, on a 3000 données par an. C'est quand même très important en termes de masse. Donc en fait, les erreurs qui sont vont être gommées. Puis les scientifiques, ils ont aussi le moyen d'analyser ces données, puis d'éjecter celles qui paraissent anormales ou trop écartées de la normale. Et ensuite, on essaye de modérer en fait ces erreurs possibles en ayant une bonne échelle, en calibrant bien l'outil à la base. C'est-à-dire que là, l'échelle le protocole que les citoyens utilisent, c'est un protocole qui a été pensé avec les scientifiques, qui a été réalisé pour qu'il soit abordable pour tous. Voilà. Et qui est donc facile à appliquer, quoi. C'est le plus facile possible.
Le problème étant que normalement, ce sont les scientifiques qui créent leur outil, donc ils savent déjà comment ça marche puisque c'est eux qui l'ont créé. Là, ce sont des citoyens comme vous et moi qui pouvons participer.
C'est exactement. En fait, quand même, dans l'ODS, on a un protocole fixé, qui est fixé par les scientifiques. Donc on doit
ODS, observatoire
des saisons, pardon. Donc, qu'on doit appliquer. Par exemple, l'échelle qu'on utilise pour mesurer les événements phénologiques, c'est exactement la même échelle que les scientifiques utilisent. Et ça, les citoyens, ils n'ont aucun problème à l'appliquer, quoi. Il suffit juste d'apprendre un peu.
Il suffit juste de leur expliquer.
C'est ça. Puis voilà, si ça les intéresse en plus, les gens qui s'intéressent à ça, c'est quand même assez spécialisé. Donc du coup, ils y vont à fond, quoi. Enfin...
Oui, j'imagine que personne ne se réveille un matin en disant « Tiens, je vais faire l'observatoire des saisons ».
Il y a quand même un intérêt à la base. Voilà, c'est ça, un intérêt à la base. Bon, il n'y a pas que ce projet-là, il y a aussi un autre projet qui s'appelle « Sauvage de ma rue » et qui est réalisé en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle et qui est dirigé par mon collègue Jérémy Saligné. Donc j'en parle parce que c'est un projet tout aussi intéressant d'observation en fait, des patchs de populations de plantes sauvages dans les rues en fait. Et ça intéresse les scientifiques pour voir comment les plantes, finalement, qui se développent normalement dans des aires non fragmentées comme les villes, peuvent s'en sortir dans des milieux construits complètement par l'homme, quoi. Et en plus, c'est super intéressant, ça permet aux gens de faire de la botanique de manière simple, efficace, et puis... voilà.
Dans sa rue.
Dans sa rue, devant son trottoir. C'est super. Voilà. Et il y a d'autres projets. Il y a Vigiflore aussi.
Oui.
Donc là, qui est un peu plus pointu. Donc là, c'est... C'est faire l'inventaire de plantes, de la biodiversité, on va dire, commune. Souvent, les spécialistes s'intéressent à des plantes, sont spécialisés après dans des genres, des espèces. Et donc là, ça serait de refaire un inventaire actuel des plantes communes dans les campagnes, etc. Donc là, il faut quand même être un petit peu plus botaniste pour pouvoir faire, on appelle ça des mailles d'identification. Il faut être un peu plus pointu, mais c'est aussi de la science participative puisqu'on crée du bien commun pour l'ensemble de la communauté, quoi.
Les plantes communes, c'est le platane, le pissenlit.
Non. Là, pour Vigiflore, les plantes communes, ça va être vraiment des plantes sauvages de la flore de France, quoi. Le platane, il fait partie de la flore de France, mais c'est quelque chose qui a été importé.
Légèrement importé.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est plus l'observatoire des saisons, par exemple. On a des espèces comme ça qui sont dans nos villes aussi. Le platane, le marronnier, des choses qui ne font pas partie de la flore sauvage, on va dire, de France. Donc c'est autre chose.
Juste une petite remarque de communication. Vigiflore, sauvage de ma rue, c'est quand même nettement mieux vu et nettement plus vendeur que, que référentiel taxonomique.
Quand même. Exact, c'est exact.
C'est plus, on sent tout de suite la partie qui est plus grand public et la partie qui est quand même déjà plus initiée.
C'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus difficile d'expliquer référentiel taxonomique parce que ça ne concerne pas le grand public. Quoi. C'est vraiment très précis quand même comme travail.
Mais les données, l'idée générale, si j'ai bien compris, c'est quand même d'utiliser les données issues des projets de sciences participatives pour alimenter l'immense tour de Babel de connaissances taxonomiques.
Oui et non. En fait, c'est quand même assez parallèle. C'est-à-dire que référentiel taxonomique, c'est aussi quelque part un projet de sciences participatives, mais à plus petite échelle, qui s'adresse à des spécialistes. Mais c'est quand même de la science participative. On a quand même beaucoup de participants dans le projet.
D'accord, mais le club est plus fermé.
Voilà. C'est ça.
On pourrait faire l'analogie avec un dictionnaire. Les taxonomiques, ceux qui vont fabriquer le dictionnaire. Donc, ils vont discuter sur le sens des mots, sur les synonymes. On en a aussi en botanique. Donc, ils fabriquent le dictionnaire. Donc, c'est pas n'importe qui. Il faut regarder l'orthographe, la grammaire, tous ces trucs-là. Puis ensuite, il y a tous ceux qui vont utiliser le dictionnaire, qui vont être des poètes, qui vont être des scientifiques, qui vont être ceux qui vont écrire la lettre pour leur amoureuse, etc. Donc, il n'y a pas besoin. On voit bien qu'il faut les deux. Hein. On peut pas communiquer si on n'a pas un bon dictionnaire. Et si on a un dictionnaire que personne ne communique, il ne sert pas à grand-chose.
Tout à fait. Tous ces projets de sciences participatives, ils datent de quand ? Est-ce que c'est une mode qui va disparaître avec...
Voilà. Non, on n'espère pas que ça soit une mode qui va disparaître. Non, au contraire, c'est juste un mouvement qui vient de se lancer, qui s'est lancé depuis quoi ? Une dizaine d'années en France à peu près ?
Oui. Oui, les premiers en France, c'est le programme de suivi qu'on appelle le STOC, un suivi temporel des oiseaux communs qui date de 1981-82, qui est le plus ancien, qui a fait suite au premier qui a existé, connu, je dirais, au monde, qui a été lancé par les Américains en 1900 et quelques, qui s'appelait le Christmas Birth Count, donc le comptage des oiseaux par Noël, à Noël. Qui perdure depuis, hein, donc toujours ce comptage se fait, et les États-Unis sont capables de mobiliser pratiquement 1 million de personnes pendant un week-end pour compter les oiseaux.
C'est énorme.
Ceux qui détiennent, et c'est eux qui aujourd'hui ont les données les plus fiables sur l'évolution de la flore, de la faune aviaire, donc des oiseaux aux États-Unis, et qui ont montré que la disparition de certaines espèces total, pour certains cas, d'autres des fortes régressions. Donc c'est des choses qui sont anciennes dans le domaine des oiseaux parce que en général, il y a beaucoup plus d'observateurs d'oiseaux et de compteurs d'oiseaux que de compteurs ou d'observateurs d'algues. De plantes ou d'algues, c'est certain. Voilà. Et aujourd'hui, la France s'y met avec un certain retard. Les Anglais sont très forts aussi dessus, hein. Ils ont des programmes très bien organisés depuis longtemps, beaucoup plus naturalistes que les Français. Et aujourd'hui, le seul fait de se dire on essaie de rattraper un petit peu le retard qu'on a par rapport aux anglo-saxons n'est pas si simple que ça. On est sur la bonne voie, je pense, mais on a vraiment du travail à faire encore pour agiter les Français à observer la nature et se rendre compte que c'est un don qui nous est fait et que c'est dommage quand même de pas le regarder d'une part et puis ensuite surtout de l'abîmer.
J'imagine.
Oui.
Donc, dans votre démarche, il y a deux côtés. Il y a le côté citoyen que vous essayez, j'allais dire, d'appâter avec des outils bien faits, faciles à utiliser. Et il y a le côté scientifique. Est-ce que ça a été facile de convaincre les scientifiques de travailler avec des données qu'ils ne maîtrisaient pas complètement ?
On n'a pas du tout eu à les convaincre. C'est eux qui sont venus vers nous parce qu'ils en avaient envie et parce qu'ils en avaient aussi besoin. En termes, en tout cas, enfin moi, je parle pour l'Observatoire des Saisons. En termes de phénologie, c'est impensable qu'actuellement les scientifiques restent isolés dans leur coin parce qu'on a besoin de beaucoup de données. En fait, pourquoi on prend des données phénologiques ? C'est pour comprendre l'impact du changement climatique sur notre environnement. Et on a besoin de données de masse, en fait, et sur l'ensemble du territoire. Et les scientifiques, ils sont trop peu nombreux pour obtenir ces données. Même si elles sont plus fiables, il n'y en a quand même pas suffisamment pour pouvoir générer des modèles climatiques pour comprendre ce qui va se passer dans le futur. Et ils ont vraiment besoin de ces données-là. Donc, on n'a pas eu à les convaincre.
Donc, grâce à vous, ils ont 60 millions de main-d'œuvre gratuite.
Potentiel.
Il y a encore un petit peu de boulot.
Il y a encore un petit peu de marge, mais on a espoir. Puis, enfin, moi, je pense vraiment en termes, enfin, la science participative, c'est intéressant pour les scientifiques, mais c'est aussi intéressant pour les citoyens. Je veux dire, au-delà du fait d'être accompagné avec des outils, etc., c'est aussi bien d'avoir un recul sur la science et de pouvoir la comprendre et apprendre à penser en termes de science, même quand on est un citoyen. Et du coup, de s'impliquer dans un petit programme comme ça, ça peut, c'est une fenêtre en fait sur notre monde scientifique et sur ce qui, pour moi, doit être compris par tous, quoi. Parce que la science, bah, c'est aussi la technologie qui nous entoure, notamment, enfin, je sais pas, par exemple les OGM, et on doit avoir une opinion là-dessus. Et pour avoir une opinion là-dessus, il faut comprendre comment ça marche.
Donc, ça aide.
Voilà, comprendre comment ça marche, c'est aller aussi vers la science. Et du coup, je pense que les sciences participatives, au contraire, c'est pas du tout un effet de mode, c'est un outil nécessaire à notre société, à la construction de nos sociétés.
C'est un miroir de la société.
Bah, c'est un miroir de la science, ouais, qui doit se refléter sur la société pour qu'elle comprenne les enjeux.
Un rapprochement entre les scientifiques et les citoyens. Enfin.
On espère.
On avait quand même plutôt tendance à imaginer les deux mondes très séparés. Les scientifiques qui ne parlent qu'aux scientifiques, en scientifique, avec un langage souvent très technique et trop inabordable par le commun des mortels. Donc là, c'est un outil qui permet de rapprocher les deux mondes.
Voilà, on essaye de faire un pont, c'est ça.
Et puis d'apprendre aussi à observer. On se rend compte que l'école, aujourd'hui, apprend des concepts. On apprend des mathématiques, de la physique, de la chimie. On va apprendre éventuellement des langues, etc. Mais très peu de place est laissée à l'observation. Tout simplement, apprendre à observer, à regarder. Et si on n'apprend pas à regarder, on ne voit rien. C'est-à-dire que des choses qui sont pourtant importantes et qui changent devant nous, si on n'a pas appris à les observer, on ne voit même pas qu'elles changent. Et cet apprentissage à l'observation, elle est complètement fondamentale, elle est totalement abandonnée aujourd'hui, ou pratiquement par l'éducation nationale, parce qu'il y a des choses, tas de choses qui sont à faire, etc. Il y a vraiment un gros travail qui est à faire, c'est vraiment de l'éducation, je dirais, à mettre dans le cadre de l'éducation populaire, je dirais même. C'est vraiment une ouverture dans ce sens-là qu'il faudrait le voir pour moi.
Et est-ce que le côté participatif aussi ne serait pas quelque chose à apprendre à l'école, apprendre aux enfants à ne pas travailler que pour eux, que pour avoir un salaire, mais aussi pour faire une émulation.
Apprendre à collaborer, et on en revient toujours aux mêmes idées, apprendre à collaborer et créer un bien qui va être libre, qui sera accessible à tous, ça c'est aussi une démarche très importante et qui n'est pas forcément ancrée, qui n'est pas forcément toujours ancrée dans nos mentalités, quoi. Donc c'est assez intéressant.
Qui te fait tout à fait à contre de ce qu'on apprend à l'école.
Donc, aussi.
On fait ses devoirs à soi. Voilà. Il ne faut pas copier sur le voisin, il ne faut pas qu'il copie sur vous. Il faut être le premier. Donc on est complètement à contre de ce modèle productiviste qui va chercher toujours à sélectionner les gens sur la bataille qu'ils vont pouvoir avoir entre eux plutôt que de la collaboration qu'ils vont pouvoir créer pour faire quelque chose de plus. C'est vraiment un changement de paradigme extrêmement profond, mais c'est pas facile parce qu'il est ancré depuis longtemps dans notre société extrêmement mercantile.
Alors justement, est-ce que ces projets de sciences participatives ont plus émergé ou ont plus de succès dans certains types de sociétés que dans d'autres? Parce que vous avez parlé des États-Unis avec l'Observatoire des oiseaux qui ont quand même... Pourtant, les États-Unis, on imagine le summum de la mondialisation et du brevet et du surtout pas partager les informations. Et pourtant, ça marche.
Paradoxalement, les États-Unis partagent beaucoup plus que la France. Hein. Quand une donnée a été payée par un bien public aux États-Unis, elle est obligatoirement libre. En France, elle peut être payée par un bien public et rester complètement privée. C'est extrêmement fréquent en dessous.
Donc, c'est une hérésie d'ailleurs.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, cet aspect, donc, donner des choses. Et puis, il faut voir que les associations, les sociétés caritatives dans les pays anglo-saxons sont beaucoup plus développées qu'en France également. Hein. Même au niveau des entreprises, le mécénat est développé aussi. Donc on est dans des cultures qui sont très profondes. Hein, je veux dire, il faut reprendre même la culture religieuse derrière. Hein, entre le catholicisme et le protestantisme, on va avoir des modes de fonctionnement qui sont complètement différents et qu'on va retrouver dans ces cultures-là des siècles après. Ça se traduit après sur des choses tout aussi banales que quand on fait des sciences participatives. Il faudrait presque parler des sources philosophiques des populations d'il y a deux siècles ou trois siècles.
Au niveau financement, parce que il faut quand même bien en parler un moment, votre association tourne avec quel type de fonds? Parce que j'imagine que quand même tous ces employés, tous ces outils matériels aussi, les ordinateurs et tout ça, ça coûte cher.
Alors, les sources de financement, il y en a bien sûr plusieurs. Il y a des sources de financement publiques. Par exemple, c'est le ministère de l'Environnement qui finance le travail sur lequel œuvre Louise, à partir des référentiels. C'est scientifique, donc c'est le ministère. Donc, on est financé pour ça depuis sur des contrats pluriannuels. On est en train de les renouveler, d'ailleurs, actuellement. C'est toujours des bagarres parce qu'on n'est pas les seuls à présenter notre sébille. Par les collectivités territoriales, les communes, les villes, les régions, les départements qui sont de plus en plus intéressés par les sciences participatives et qui veulent intégrer ça dans leur stratégie en faveur de la biodiversité, dans leur agenda 21 par exemple. On a des fondations qui interviennent en termes de mécénat. Par exemple, pour tout ce qui est les herbiers, aujourd'hui, pratiquement le tiers de nos budgets provient d'une fondation américaine depuis de nombreuses années. Donc, Tella Botanica contribue de façon extrêmement positive à la balance des paiements de la France en ayant un nombre substantiel de dollars qui viennent financer le travail que l'on fait. Il y a quelques dons qui sont aussi apportés par les membres du réseau. Mais en gros, c'est ça. Donc, collectivité territoriale publique, mécénat, et puis quelques prestations que l'on fournit à côté, mais qui restent...
Vous vendez quand même un peu quelque chose.
On vend notamment, par exemple, il y a une personne a réalisé une flore électronique pour déterminer une plante sur ordinateur. Quand on travaille dessus, il est venu nous voir si on pouvait la diffuser. On a dit OK. On a développé la jaquette, le CD, enfin le DVD. Et notre prestation après, on vend ce DVD-là, qui nous fait aussi des rentrées financières, mais ça reste quelque chose d'assez marginal globalement.
D'accord. L'idée étant quand même qu'à la base, les informations restent gratuites et abordables à tous.
Voilà. Ce que l'on vend, c'est pas les données qui sont dedans, c'est l'outil et le support, la communication. Quand on fait un CD, ne serait-ce que de l'envoyer, toute cette partie-là, c'est ce qui coûte le plus cher, en fait.
C'est ça. C'est notre travail, notre expertise, finalement. Pas du tout les données elles restent libres quoi qu'il arrive.
Au niveau des adhérents à l'association, est-ce que tous les participants, tous les collecteurs de données doivent être obligatoirement adhérents à une association ou pas?
Alors, l'idée de membre à Tella Botanica est très particulière, c'est-à-dire que l'association Tella Botanica comporte peu de membres, une trentaine, qui sont choisis en fonction de leurs compétences de façon très très large, qui forment, regroupés dans différents collèges, un conseil scientifique notamment. Et puis ensuite, il y a les membres du réseau qui, eux, ont comme seule possibilité, c'est celle de s'inscrire en tant que citoyen dans le réseau. C'est tout, on leur demande rien, on leur demande pas d'argent, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir, ils font ce qu'ils veulent. Donc effectivement, tous les jours, il y en a qui s'inscrivent, d'autres qui se désinscrivent. Globalement, le nombre augmente de plusieurs personnes par jour, tous les jours, depuis 12 ans.
Voilà. Et en général, ces gens-là sont relativement fidèles ou...
Ils sont relativement fidèles. On le constate, on édite une lettre hebdomadaire d'actualité sur la botanique, qui va depuis les bouquins qui vont sortir, les sorties dans la nature, les emplois dans le domaine de l'environnement. Une lettre qui a beaucoup de succès, qui est lue à peu près, qui est diffusée à peu près à 12 000 exemplaires par semaine. C'est le moyen de lien, c'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens disent je connais Tella Botanica parce que je reçois la lettre d'actualité. C'est un petit peu le lien entre les deux. C'est vraiment un outil très, 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 très fort de communication qui n'a pas d'équivalent. Et quand on veut lancer un nouveau projet, par exemple, quand Jennifer ou Audrey veulent lancer quelque chose, elles passent par les actualités parce que là, on sait qu'on va toucher 12 000 personnes en envoyant un seul mail. Là, c'est fabuleux de pouvoir faire ça.
Et ça marche.
Voilà. Et ça marche, je veux dire. C'est
la
chose qui...
Ça répond très, très bien.
Puis celui qui est embêté par les mails, il se désinscrit de la lettre et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est pas un problème. Ça se fait de façon extrêmement souple et sans contrainte.
Oui, c'est gratuit.
Et c'est souvent la manière la plus efficace de ne pas donner de contraintes pour inciter les gens à participer.
Ah bah oui, ça c'est clair, il faut, quand on veut faire que les gens rentrent quelque part, il faut leur montrer qu'ils peuvent s'en sortir, c'est la raison principale, alors que les sociétés anciennes, souvent, c'est de dire vous allez rentrer, oulala, on voit vous allez monter dans la hiérarchie intellectuelle, mais il faut montrer patte blanche, etc. Dans ce cas-là, effectivement, on a 150 ou 200 adhérents, si on se dit non, vous entrez, vous ressortez quand vous voulez, bon, on en a 18 000, bon, c'est pas les mêmes objectifs, hein, effectivement, derrière, mais aujourd'hui, il faut mieux travailler dans cette deuxième façon, je pense.
Et ce qui est intéressant aussi pour les membres, c'est d'avoir des résultats après, quoi. Ils vont participer à un projet, mais ils vont aussi voir les résultats scientifiques qui en ressortent. Donc vraiment le fruit de leur travail, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Quel est l'intérêt que recherchent les participants qui viennent apporter leur contribution? Quel est le retour?
Bon, bah déjà, être accompagné dans une démarche scientifique. Déjà, c'est la première chose, et dans une démarche d'observation naturaliste. Après, on fait des retours sous forme de lettres, justement, je parle encore pour mon projet, mais pour, en tout cas, l'Observatoire des saisons, on leur fait des retours tous les mois, avec les dernières observations, les nouveautés sur le réseau. On les tient au courant aussi de ce qui se passe dans le monde scientifique, c'est-à-dire qu'on va vulgariser des articles scientifiques pour eux. Qu'on met sur le site et puis aussi qu'on leur envoie dans la lettre d'actualité. Et aussi, on fait des dossiers tous les 6 mois, en fait, avec les résultats, avec une analyse plus poussée des résultats de l'observatoire qu'on fait en lien avec les chercheurs qui travaillent sur l'Observatoire des saisons. Et donc, c'est pareil pour tous les projets de Tela Botanica. En fait, les animateurs génèrent des supports, des lettres ou des articles sur le site pour que les gens voient et aient une visibilité de ce qui s'est passé dans leur projet, quoi.
Donc là, c'est la raison pour laquelle le grand public participe, mais la raison pour laquelle les scientifiques participent, c'est un peu différent. Par exemple, pour les référentiels taxonomiques, c'est parce que justement, ils ont besoin d'un dictionnaire de plantes qui n'existait pas. Donc, ils vont se mettre à plusieurs pour le constituer. Ils ne peuvent pas le constituer tout seuls. Donc, leur résultat à la fin, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser ce dictionnaire constitué par tous.
D'accord, et que les citoyens seront contents de l'utiliser aussi après.
Aussi.
La création de l'outil pour apporter une pierre à l'édifice et continuer à faire autre chose après. Justement, est-ce qu'il y a des projets à court terme qui sont portés par Tela Botanica, un projet vraiment qui va arriver là? Continuer son activité?
Dans les nouveaux projets qui vont sortir, alors on peut dire aujourd'hui que l'on a un petit peu dans le lointain, dans le lointain proche, en 2013, on voudrait sortir de la France, France pour travailler sur l'Afrique du Nord, qui est un pays anglophone, qui a de gros problèmes en matière environnementale, qui a très peu de scientifiques, parce que beaucoup de scientifiques étaient des Européens qui sont rentrés en Europe après la libération des différents pays. Donc il y a un très très gros chantier ici. Donc notamment les Américains, aujourd'hui, nous financent très partiellement là-dessus pour nous aider à accompagner des pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte à rentrer dans cette danse-là, notamment par le biais des herbiers, qui aujourd'hui sont des objets patrimoniaux à protéger et qui sont rares. Donc pour nous, l'Afrique du Nord va être essayer de voir comment qu'on va pouvoir redupliquer, ça ne sera jamais pareil, mais ce qui se passe en France, en Afrique du Nord.
Et justement, pour les herbiers, on travaillait principalement sur l'herbier de Montpellier, sur les données de l'herbier de Montpellier. Et à partir de 2013, on va essayer de travailler au niveau France sur les données, sur des métadonnées, en fait, de faire l'inventaire au niveau de chaque région de tous les herbiers de France.
Sacré
C'est
boulot.
C'est le début d'un projet. Ouais.
Ça sera le prochain travail à Louise.
Ben bon courage alors, parce qu'il y a vraiment du boulot.
Il y a un gros travail. Je voulais finir pour dire qu'il y avait aussi, sous l'angle sociologique, puisque c'est à la fois, on fait de la botanique, on fait de l'informatique, mais il y a toute une dimension sociologique qui est intéressante et nouvelle. Et je voulais quand même faire savoir que nous sommes suivis, observés par une université qui, par des sociologues, qui régulièrement produisent un ou deux articles par an sur des sujets particuliers de Tela Botanica, sur les aspects collaboratif, sur la façon dont se prennent les décisions, la façon dont se règlent les conflits, par exemple. C'est l'Université du Québec à Montréal, hein, l'UQAM, avec qui on travaille depuis assez longuement. Et j'ai reçu un mail hier en disant, tiens, on va étudier, donc c'est un scoop, on voudrait étudier l'usage qui est fait des images numériques dans le cadre d'un réseau collaboratif. Comment sont traitées, utilisées les images numériques? Bon, ça fait partie des travaux sur lesquels Jennifer a travaillé beaucoup, la collecte d'images. Donc, les Canadiens veulent travailler spécifiquement là-dessus, sous l'angle sociologique, avec l'Université de Montpellier. Donc, on aura prochainement à discuter avec eux là-dessus. J'ai dit que j'étais tout à fait d'accord. Donc, je pense que tu les verras prochainement, Jennifer.
Super.
C'est une université qui fait de l'épistémologie de Tela Botanica, en fait.
Tout à fait. Donc, elle suit différents réseaux. Elle a suivi Facebook. Il y a même un article dans lequel elle compare Tela Botanica et Facebook. Je trouve que c'est un peu osé, mais enfin, on était clair. Voilà. Elle a suivi aussi Wikipédia, donc elle essaie et s'intéresse à tout ce qui est nouveaux médias et citoyens. D'accord. En gros, voilà, voir comment les deux s'articulent avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux épistémiques, c'est les réseaux qui créent de la connaissance. Un réseau social ne crée pas de la connaissance, il crée du lien. Nous, on crée du lien, mais on crée aussi de la connaissance, donc un réseau épistémique. Hein, voilà.
Donc, et vous allez rentrer en bourse ?
Comment ?
Vous allez rentrer en bourse ?
Prochainement, bien sûr. Quand le problème de relos seront réglés, ça ne posera plus aucune difficulté.
Mais écoutez, je vous remercie d'avoir parlé de votre association à l'antenne de Terra One aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs vont s'intéresser à tous ces projets
oui,
de sciences participatives.
Qu'ils viennent.
Vous les accueillerez bien, j'imagine.
Bien sûr, qu'ils viennent faire un tour sur le site aussi.
On peut donner l'adresse du site peut-être.
Oui, le lien sera mis sur le site de l'émission. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Au revoir.